Nous poursuivons donc la lecture de l'évangile de Matthieu qui nous est proposé cette année. Et nous en sommes au chapitre 18. Courage, c'est bientôt fini. Les versets 15 à 20. Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, dans le texte de Matthieu, des versets qui ont eu une belle postérité, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Chaque fois qu'on se met en petits groupes, en paquets, ou qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on décide, qu'on prie ensemble, c'est presque sûr qu'à chaque fois quelqu'un va ressortir cette phrase, et pas nécessairement le pasteur qui a il n'y a pas pensé tout de suite, il ne pense pas toujours à tout, mais elle a eu cette postérité méritée, d'ailleurs, méritée, de donner sa raison d'être à nos rassemblements, même petits. Ce n'est pas rien. Même si à chaque fois qu'on s'assemble et qu'on lit cette phrase, si on demandait à tous ceux qui sont là, même deux ou trois, ce que veut dire cette phrase, on aurait peut-être deux ou trois opinions différentes. Ça, c'est normal. Le texte qu'on vient de relire, et si on le prend dans l'ordre, parce que là j'ai commencé par les derniers versets, donc prenons-les dans l'ordre où ils nous sont donnés, est souvent vu comme une sorte de mode d'emploi. Bon, c'est un premier danger à écarter, hein, prendre la Bible comme un mode d'emploi, un livre de recettes, où il faut peut-être se méfier de cet emploi, voilà, de cette utilisation qu'aurait le texte. Mais ce serait en tout cas une indication intéressante, nous le prendrons comme ça, pour régler des conflits dans une communauté, parce que là encore, c'est au sein même d'une communauté que ça se passe. Si quelqu'un a quelque chose contre vous, eh bien, allez lui parler. S'il ne vous écoute pas, parce qu'il y en a qui sont têtus quand même, hein, prenez une ou deux personnes avec vous, et si ça ne suffit pas, eh bien, élargissez encore le texte, et normalement, si on y va à plusieurs, le problème est réglé. Hein. C'est comme ça qu'on peut peut-être comprendre le texte. Mais les versets qui suivent nous emmènent un peu ailleurs. On trouve ces paroles énigmatiques sur ce qui est lié ou délié. Et dans la traduction que je vous ai donnée, on nous a proposé d'autres verbes, hein, exclure ou accueillir, voilà, ce qui est une certaine manière de voir les choses. Et puis la fameuse phrase, hein, là où deux ou trois, etc. Voilà comment se déroule ce texte. On pourrait y voir une série de règles aussi, mais la règle, c'est pas très loin du manuel de savoir-vivre. Hein. Des règles pour préserver l'ordre et la cohésion d'un groupe. Ça peut au moins servir à ça, c'est pas si mal. Le texte devient plus intéressant tout de même quand on le lit autrement. Il nous explique pas seulement comment résoudre un conflit. Il nous parle de ce qui arrive aux relations quand elles sont abîmées, en posant une question beaucoup plus profonde. Comment est-ce qu'on peut rester libre les uns les autres lorsque quelque chose nous sépare provisoirement ou momentanément ou sur quelque chose de partiel, avant qu'il n'y ait une rupture complète? Comment peut-on résoudre ces affaires sans aller trop loin, sans aller jusqu'à la rupture? Un conflit ne commence jamais par un événement considérable. C'est comme les guerres, hein. Il faut un motif futile et puis ça part tout de suite. Ça peut partir d'une parole, d'un geste tout simple, d'une absence, d'un malentendu, de « j'ai cru comprendre que », etc. Nous sommes familiers de ce genre de choses. Quelque chose nous a atteint pourtant. Et puis notre esprit commence à construire tout un tas de choses autour. Il a dû vouloir me dire ça parce que, etc. Vous voyez, ça commence à mousser déjà un peu autour de l'événement. Une histoire que nous racontons qui dépasse largement ce qui s'est réellement passé la plupart du temps. Nous y ajoutons des intentions que nous imaginons. Les clashs éventuels et plus anciens remontent à la surface et c'est reparti. Un conflit grandit surtout à cause de ce que nous ajoutons autour de ce qui s'est passé. C'est pas la mousse au citron, si vous voulez, c'est la meringue qu'on rajoute par-dessus, qui rend l'ensemble écœurant. Jésus commence par quelque chose de très simple. On part du noyau. Va lui parler entre toi et lui seul. Après tout, les deux parties prenantes, c'est vous deux, hein. Commencez donc par là. L'invitation suppose de renoncer, au moins provisoirement, à chercher des alliés. Le revolver, les muscles, l'autorité, etc. On va régler le problème. Renoncer provisoirement à chercher des alliés. Renoncer aussi à raconter une histoire qui rendrait compte de l'ensemble avant d'avoir écouté l'autre point de vue. Revenir à la relation réelle plutôt qu'à l'image que nous avons déjà construite de l'autre et à laquelle il est facile de se tenir parce qu'après tout, c'est notre version et on l'aime bien. Ça veut dire aussi distinguer deux affirmations très différentes. Tu as fait quelque chose qui m'a blessé et de l'autre côté, tu es quelqu'un de blessant. Ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Le premier porte sur un acte, tu as fait quelque chose. Et la seconde phrase transforme cet acte en une identité. Voilà ce que tu pourrais inscrire sur ton t-shirt ou ta casquette pour qu'on sache qui tu es. Ça s'appelle essentialiser. C'est ça, enfermer quelqu'un dans ce qu'il a fait une fois ou deux. Et qui n'a pas fait quelque chose de pas terrible une fois ou deux, au moins. À ce moment-là, l'autre n'est plus une personne avec laquelle quelque chose s'est produit. Il ou elle devient le problème. Lui-même. On lui a collé ce costume des pieds à la tête. Personne, pourtant, ne se réduit à son comportement du moment. Vous avez tous... je n'aimerais pas être réduit ou identifié uniquement en fonction de l'humeur que j'avais à certains moments au volant dans des embouteillages. Ce n'est pas valorisant. Chacun est traversé par une histoire, des habitudes, on est fabriqué de beaucoup de choses. Être ramené par un zoom avant, comme ça, sur un tout petit détail, surtout s'il n'est pas terrible, c'est ça être lié, enfermé dans cette petite chose, l'univers dans un dé à coudre. Comprendre cela ne signifie pas supprimer toute responsabilité, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, mais comprendre les causes. C'est justement ce qui permet de sortir du jugement immédiat. Il faut faire trois pas en arrière, pas se coller le nez sur le problème. C'est un zoom arrière qu'il faut, pas un zoom avant. Comprendre les causes, ça ne supprime pas non plus la liberté. C'est souvent ce qui la rend possible, d'ailleurs. On croit parfois être libre parce qu'on peut réagir spontanément. C'est presque devenu une manière d'être pour certains. Il se lâche, donc il doit être dans le vrai. Je dis ce que je pense, je rends la blessure coup pour coup, telle que je l'ai reçue, je coupe le contact, je réponds à l'agression par l'agression, voilà, au moins je dormirai bien, c'est en tout cas ce que l'on se figure. Mais cette réaction est largement commandée par ce qui nous a précédé, une peur plus ancienne. Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça au quart de tour? Une humiliation, un sentiment d'injustice, c'est tout ça qui peut prendre toute la place au point de ne plus voir la situation. Il faut donc commencer à revenir à ce point où nous devenons capables de voir ce qui bloque. Et peut-être qu'il ne faut pas être trop nombreux pour ça. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus commence par dire « va donc le voir » ou « va donc la voir » Commencez par vous deux, après tout. C'est vous qui êtes concernés avant de mettre dans cette affaire des gens qui vont vous faire reprendre le récit 25 fois. Nous ne sommes plus, d'après ce que Jésus raconte... ou la manière dont il présente les choses, condamnés à reproduire automatiquement ce que nous avons reçu. On peut répondre autrement, après tout. On peut comprendre mieux ce qui se joue entre nous et en nous aussi, au moment de la réaction un peu épidermique. C'est aussi le sens de la deuxième étape proposée par Jésus dans ces versets. Si la conversation directe ne suffit pas, parce que parfois elle ne suffit pas, il faut prendre avec soi une ou deux autres personnes, là encore, pour une intervention musclée. Ce n'est pas une arrestation. Il ne s'agit pas d'organiser un tribunal, mais de sortir d'une relation fermée à deux qui peut peut-être être dénouée autrement et dans laquelle chacun pourrait être prisonnier de sa propre interprétation. Il faut arriver à casser ce dispositif. C'est à ce moment-là qu'on découvre que je n'avais pas tout vu, pas tout entendu, pas tout compris. C'est pour ça que pour un constat d'accident, il faut plusieurs témoins pour savoir si c'est bien la voiture bleue ou la voiture rouge qui était prioritaire. Nous avons tous des angles morts et nous pouvons être sincères et nous tromper, avoir réellement souffert et pourtant ne pas comprendre entièrement ce qui s'était passé, avoir souffert, s'être vu infliger beaucoup de tort et pourtant se tromper soi-même aussi, tout est possible. Ce n'est pas simplement la vérité, ce que je ressens avec le plus de force. Il y a tellement de choses qui fonctionnent comme ça avec l'émotion. Ça m'a tellement blessé, donc j'ai raison. La vérité demande parfois un travail commun de compréhension. Ça demande du temps, de l'écoute et aussi un peu de modestie, d'accepter que notre regard soit partiel, que l'autre puisse nous apprendre quelque chose, et ça nous coûte toujours beaucoup. Jésus propose presque l'inverse. Revenir à la personne, parler directement, chercher une compréhension plus large d'abord, entre gens concernés. Pas une recette magique, mais le texte lui-même reconnaît que la démarche peut échouer aussi. Il faut au moins essayer et commencer par ça. Il existe des relations dans lesquelles la compréhension ne devient plus possible. Ça fait aussi partie des choses. On ne réussit pas toujours à rétablir un équilibre ou une relation. Cette reconnaissance n'est pas nécessairement un échec. Il y a des tas de situations où prendre de la distance est bien nécessaire. On s'est assez collé nez contre nez et front contre front, c'est bien de faire quelques pas en arrière. Le pardon, dont il n'est pas question aussi dans ce texte, mais qu'on peut supposer présent dans le « si ton frère t'écoute », si ça marche, cette rencontre. Alors il doit y avoir un pardon, il a dû se dire d'une manière ou d'une autre. Le pardon ne consiste pas à nier ce qui s'est passé, mais il ne signifie pas non plus accepter de rester dans une relation qui s'abîme, qui se détruit. Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose de pressant dans ce texte. Vous ne pouvez pas rester dans ces malentendus. Et c'est ici que Jésus nous cueille, d'une certaine manière, avec ses fameuses paroles sur lier, délier, le ciel, la terre, exclure, accueillir. Vous voyez, c'est à ce dispositif qu'il aboutit. Et ici, ça prend un sens assez particulier. Ces paroles peuvent être entendues comme une réflexion sur peut-être le poids de nos décisions sur la vie des autres. Nous avons tous le pouvoir de lier quelqu'un à une image, et il faut savoir l'en délier, le laisser tranquille avec ça, avec ce que nous avons cru percevoir de lui ou d'elle. Le lier à une faute, à un passé, à une condamnation, à une manière de faire ou de penser. Mais nous avons aussi, parce que ça passe par nous, le pouvoir de délier, c'est d'abord sur terre, ensuite au ciel. Ça commence par nous, à notre niveau, sur notre plan. Laisser une personne ne pas être réduite à ce qu'elle a fait, permettre qu'un avenir reste ouvert, accepter qu'elle puisse changer. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça se passe dans une communauté, dans un cadre bien précis. Une communauté est aussi un lieu ou peut être aussi un lieu de libération, comme elle peut être aussi un lieu d'enfermement. Elle peut augmenter la confiance, cette communauté. Elle peut augmenter l'intelligence, la capacité d'agir ensemble. Elle peut faire tout ça. Elle peut aussi produire le contraire, la peur, la culpabilité, la méfiance, du morcellement. et puis finalement de l'éclatement. Le texte de Matthieu invite à prendre au sérieux cette responsabilité individuelle, parce qu'il faut bien régler ses propres problèmes, cela seul, entre quatre yeux, comme on dit, même s'il n'y a pas de S à quatre. Le texte de Matthieu invite à prendre aussi cette responsabilité collective. C'est vrai aussi pour une communauté et la manière dont nous avons de nous parler, de nous regarder, d'agir ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il faut entendre cette dernière parole qui est la conclusion de ce passage, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai qu'elle a eu une belle postérité et encore une fois, c'est mérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous pouvons entendre cette phrase comme une promesse de présence. « Je suis au milieu d'eux ». Ce n'est pas la première fois que dans les paroles de Jésus, avant même qu'il disparaisse, il parle de lui comme d'un absent qui sera présent. Ce n'est pas la première fois. C'est le cas ici. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Promesse de présence, une présence qui peut être comprise comme une affirmation sur la qualité d'une relation. C'est comme ça qu'il est présent dans nos conversations ou dans nos actions. Quand deux ou trois personnes se réunissent, pas pour avoir raison contre quelqu'un, se liguer contre, mais pour chercher honnêtement ce qui est juste, ensemble, quelque chose de nouveau devient possible entre elles. Et à ce moment-là, il est au milieu d'eux. Quand nous cessons de chercher la victoire et nous cherchons la compréhension, ce qui est un autre type de victoire, lorsque nous acceptons de reconnaître nos angles morts, quand nous laissons à l'autre la possibilité d'évoluer, la relation change de nature et à ce moment-là, il est au milieu de nous. Mais il peut aussi être absent, vraiment absent. Être ensemble ne signifie pas penser la même chose. Nos églises l'ont appris à leurs dépens au cours de leur longue histoire. Vouloir que tout le monde soit d'accord, c'est ce qui a failli nous faire disparaître. Ça signifie pouvoir chercher ensemble ce qui nous permet de mieux vivre. Cette manière de comprendre une communauté est précieuse pour nous aujourd'hui. Nous sommes souvent tentés de croire que pour vivre ensemble, il faudrait éliminer les désaccords. C'est vrai qu'il y a quelques obstacles qu'il faut quand même un peu aplanir pour que les choses se fassent, mais être tous d'accord, trouver immédiatement le consensus, séparer ceux qui ne pensent pas comme nous, comme ça a lieu dans ce texte, hein, comme des gens qu'on exclut. Ce texte porte cette chose-là, c'est justement ce qu'il faut éviter. Une communauté capable de traverser les conflits sans perdre la possibilité de comprendre, de parler, de recommencer. La liberté, parce qu'il en est certainement question, même si elle n'est pas nommée dans ces versets, n'est pas une absence de lien, parce qu'il faut bien délier les choses qui sont trop nouées, mais il ne faut pas non plus casser les relations, donc il faut garder quelque chose des attachements. Il ne faut pas tout couper à coups de sécateur ou à coups de ciseaux. La liberté ici dont il est question, c'est la capacité de construire des liens qui ne deviennent pas des nœuds ou des prisons. Matthieu conduit d'une situation très concrète, une personne qui nous a blessés, on ne sait pas de quoi, mais on est tous capables de mettre toutes sortes d'exemples au début du texte. Il nous conduit vers une conception plus large de la vie commune en nous demandant de résister au réflexe de jugement définitif, de préférer la conversation à la rumeur, au bruit de couloir, la compréhension à l'étiquetage, la recherche commune de la vérité à la simple affirmation de notre propre version des faits, ce que nous faisons souvent. Vivre ensemble dans une communauté, ce n'est pas se blesser en voulant imposer les choses, c'est ne pas laisser la blessure décider seule de l'avenir, même si elle peut arriver. Alors peut-être deux ou trois personnes réunies prennent un sens nouveau. Elles ne sont pas réunies parce qu'elles seraient identiques, elles ne le seront jamais, ni parce qu'elles auraient supprimé leurs désaccords, il se peut que ça reste longtemps. Elles sont réunies parce qu'elles acceptent de chercher ensemble un chemin qui ne transforme pas la différence en un problème à résoudre, en un nœud gordien qu'il faudrait trancher. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ce n'est pas seulement un préalable à nos relations. C'est le cas. Faisons ce que nous allons faire en son nom. C'est ce que nous essayons de faire. Mais c'est peut-être aussi un critère d'évaluation, après coup ou à mi-parcours, dans tout ce qui vient de se dire et de se faire, était-il présent au milieu de tout cela? Avons-nous fait entendre sa parole à travers les nôtres? C'est peut-être là que commence la véritable liberté, le lien délié, ce nœud enfin tranché. Celui-là devait l'être. Pas quand nous n'avons plus besoin des autres, mais lorsque nous devenons capables d'être liés sans faire de nœud. Amen.